La question de ce message de ce matin, c'est pourquoi Jésus est-il né à Bethléem ? On va découvrir ensemble. Alors vous avez certainement aussi, vous, des idées sur les raisons pour lesquelles Jésus est né à Bethléem et pas dans une autre ville, pas dans un autre village. Mais avant, je voudrais vous poser une question. Quel est, d'après vous, l'aliment qu'on a le plus en commun, les humains ? Le pain ? Ça vous convient, le pain, comme aliment en commun ? L'eau ? Ouais, c'est vrai. L'eau est un aliment, c'est vrai qu'il faut boire de l'eau, c'est bon pour la santé. Ouais, je suis assez d'accord pour dire le pain, et puis l'eau aussi, mais du coup, je ne sais pas comment je vais le placer dans mon message. On va arriver à le placer, parce que le Seigneur Jésus, c'est l'eau vive. C'est l'eau vive, donc oui, l'eau. Mais le pain, c'est ce qu'on a en commun, c'est ce qu'on partage. Quand on est à table, il y a toujours du pain à table. Maintenant, il y a des personnes qui sont allergiques au gluten et on a de plus en plus ce genre de phénomène très, très étrange. Donc il y a moins de personnes qui mangent du pain. Mais en tout cas, en France, c'est vrai qu'on aime bien le bon pain. On a toutes sortes de pains différents et on aime ça. Alors, pourquoi Jésus est-il né à Bethléem ? Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Jésus est né dans la maison du pain. On imagine la portée de ce mot. Pourquoi la maison du pain ? Jeannette, peut-être que tu aurais certainement plein de choses à dire là-dessus. Est-ce qu'on fabriquait beaucoup de pain dans ce village, dans cette ville ? Qu'est-ce qu'on faisait avec le pain ? Et on va commencer avec cette première lecture, cette première diapo. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Bethléem est situé au sud de Jérusalem, dans les collines de Judée. Et c'est là qu'on peut dire que c'est ici, à Bethléem, que pour la première fois, les hommes ont pu voir Dieu en chair et en os. C'est la première fois qu'il apparaissait. Jésus étant le Fils de Dieu, mais étant Dieu lui-même, c'est la première fois que matériellement, Dieu se matérialisait devant leurs yeux. Donc c'est quand même, Bethléem porte là, je dirais, un défi important au monde. Jésus est venu là pour la première fois, Dieu est venu ici. Pourquoi cet endroit plutôt qu'un autre ? Alors bien sûr, c'était la maison des ancêtres de Joseph et de Marie. C'était la cité de David aussi. Et c'était bien plus encore, parce qu'à Bethléem, justement, c'est là que les bergers ont reçu la bonne nouvelle de la part des anges. Et la réponse des bergers a été vraiment incroyable, a été vraiment enthousiaste. Et ils étaient subjugués par ce qu'ils voyaient. C'était vraiment, ça allait venir bouleverser leur quotidien. Puis ça viendrait bouleverser le quotidien de millions d'êtres humains. Jésus n'est pas né dans la maison de la royauté. Il n'est pas né dans la maison des richesses. Il n'est pas né dans la maison de la célébrité. Jésus n'est pas né à Jérusalem, ni même à Rome, ni même à Athènes, ni même à Alexandrie, qui étaient vraiment les grands pôles d'attraction de l'époque. Mais il est bien né dans une ville qui n'était pas ni culturellement, ni commercialement, ni socialement très significative. Petite bourgade isolée de Judée. Et lorsque Michée, le prophète de l'Ancien Testament, a annoncé la naissance de Jésus, on peut passer la diapo là, il a souligné un peu son désarroi à ce moment-là, parce que ça avait tellement peu de sens pour les gens qui étaient autour de lui, mais pour lui, ça avait vraiment du sens. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » C'est pas rien. Cette ville de Bethléem qui remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'était déjà dans le cœur de Dieu, hein, de faire venir Jésus ici. Et Michée avait compris ça. Comme prophète, il avait reçu, mais autour de lui, ça n'était pas forcément bien compris. Donc Bethléem, la maison du pain, le pain, c'est vraiment effectivement ce qu'on a en commun, ce qu'on partage, ce pain-là. Bon, quand on est en France, on rajoute un peu de fromage avec, on aime bien le fromage aussi. Même les Suisses, vous vous rendez compte, ils trempent le pain dans la fondue. Enfin, c'est, voilà, le pain, c'est vraiment ce qu'on a en partage. Et alors, on pourrait se poser cette question-là, mais pourquoi, au fond, faire naître Jésus à Bethléem ? On ne va pas forcément chercher un très grand sens théologique à tout ça, mais on peut trouver un sens qui soit simple à comprendre pour nous. Vous savez que Jésus va devenir le pain de vie. Au moment où il partage le pain au dernier repas, il dira « Ceci est mon corps ». Et quand il va briser ce pain, ce sera du pain qui représentera son corps brisé. Hein ? Et sa naissance, qui a été annoncée aux bergers, qui étaient des hommes du peuple, n'a pas été annoncée au roi Hérode, mais pourtant Hérode a entendu parler de cette naissance, de la naissance de cet enfant, dont on disait qu'il était plein de promesses. Puis Hérode, vous connaissez l'histoire, il a vraiment craint pour son avenir. Il craignait pour son emploi, je ne sais pas. Et le berceau de Jésus, c'était une mangeoire, un abreuvoir pour animal dans une étable. Et j'imagine beaucoup d'êtres humains sur cette terre qui naissent dans les mêmes conditions, dans des pays où il y a la très grande pauvreté. Mais Jésus est en train de dire, en naissant de cette façon, qu'il n'y a pas d'humain suffisamment trop bas pour que Dieu se penche vers lui. Il n'y a personne dans ce monde qui soit trop petit, trop pauvre, trop ignoré de ce monde pour que Dieu se penche vers lui. Et donc Jésus s'abaisse à la condition la plus basse qui soit sur terre, pour dire aux hommes, vous voyez, moi, je suis né aussi comme vous. Je suis né dans la pauvreté. Et donc, vous n'êtes pas hors de portée de l'amour de Dieu. Dieu sait, il connaît ça. Christ est né à Bethléem, la maison du pain, et j'ai envie de dire, il est né à Bethléem pour satisfaire notre faim spirituelle. Mes amis, j'espère qu'on a faim spirituellement, j'espère qu'on a soif, qu'on a envie de manger ce pain et de boire cette eau. On va regarder un autre verset, diapo suivante. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Quel pain ? Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tu vois, Eric, c'est là qu'on retrouve l'eau. Et voilà, c'est ça. C'est ça le message pour aujourd'hui. Jésus se fait pain pour nous. T'as pas de pain chez toi ? C'est pas grave. Jésus est le pain de vie. Tu manques de pain pour demain ? Jésus est le pain de vie. Et puis si tu lui fais confiance, il donnera ton pain pour chaque jour. Et là, le pain, c'est justement une bonne comparaison avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce que quand on a mangé un bon morceau de pain, est-ce qu'on a encore faim après ? On a faim encore après un bon morceau de pain ? Non, ça nous cale pour la journée. Et là, on a l'image que le Seigneur, en fait, nous satisfait, nous fortifie spirituellement, comme le pain le fait physiquement pour nos corps. On va regarder un autre texte qui se trouve dans Ésaïe 55 au verset 2, qui est cet appel à venir gratuitement. Venez-vous tous, qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Il ne faut pas faire ça au supermarché casino d'à côté. Mais ça veut dire quelque chose, hein, quand Dieu nous dit ça. Un peu plus loin, Isaïe 55, verset 2, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ?» On peut courir après des chimères en pensant qu'on sera heureux avec plus d'argent, avec plus de choses, avec plus de choses. Puis en fait, comme le Seigneur n'est pas dans nos cœurs, on a ce vide en nous. La suite. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. On peut continuer. Non, c'est pas encore là. Donc tu peux rester sur le texte d'avant, excuse-moi là. Vous voyez que, en fait, dans nos vies, en fait, il est très très facile de se laisser entraîner dans des mauvais choix. Il faut être vigilant pour nos vies, pour ne pas se laisser entraîner en recherchant une sorte de sens à notre existence. Parce que, en fait, beaucoup de choses apportent un bonheur, mais temporaire, en fait. C'est un bonheur temporaire qui demande à chaque fois à être renouvelé, avec une nouvelle dose de bonheur temporaire, et une nouvelle dose de bonheur temporaire, et puis ça s'arrête, puis il faut de nouveau trouver cette espèce de bonheur qui n'existe pas en fond. Mais on sait très bien, vous et moi, que seul le Christ peut satisfaire cette dimension éternelle de notre esprit. On a en nous, Dieu a mis en nous une dimension éternelle. Et ça, on ne pourra pas le satisfaire avec des biens et des choses qui sont temporaires, qui ne sont pas durables. Et le fait que Jésus soit né dans la maison du pain, en fait, ça nous donne cette assurance que Dieu veut vraiment nous choisir pour être ses enfants, aussi insignifiants que nous puissions paraître nous-mêmes et aussi insignifiants que nous puissions paraître aux yeux du monde. Être chrétien aujourd'hui n'est pas forcément quelque chose qui a un grand succès autour de nous. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un en disant « je suis chrétien », il va dire « waouh, génial, c'est fabuleux ça hein ». Il ne va pas dire ça hein, au premier abord. Il va plutôt « ah, chrétien ». Ne me rappelle pas des bons souvenirs. Et ce Jésus qui, notre Seigneur qui est né à Bethléem, la maison du pain, pour nous enseigner aussi que chacun de nous doit le choisir en tant que sauveur, en tant que pain qui va durer pour notre vie. Et donc, vous remarquez, si vous êtes par exemple à table avec quelqu'un, si la personne en face de vous mange son repas, vous ne serez pas rassasié en fait. S'ils mangent, vous ne serez pas rassasiés. Donc c'est que si vous mangez, si nous mangeons, nous serons rassasiés. Donc c'est aussi une invitation à venir manger, à venir prendre ce pain. Hein ? Regardez ce verset de Corinthiens. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donc nous, ici, Église de Deuil-la-Barre, nous faisons une grande pâte à pain ensemble, et nous faisons cuire ce pain, et ensemble nous formons un même pain. Nous participons tous à un même pain. Nous sommes son Église, nous sommes ce que Jésus a formé, son projet, son Église. Et finalement, Jésus est le seul pain qui offre la vie et la décision de le recevoir, elle est personnelle. Cette décision d'accueillir Jésus dans nos vies, et c'est le moment au temps de Noël de réfléchir à ça, de voir est-ce que j'ai besoin d'accueillir à nouveau Jésus dans ma vie ? Est-ce que j'ai besoin à nouveau de questionner en moi tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas encore en place, et de demander à Dieu de mettre aussi de l'ordre dans ma vie. Et la question, elle ne se situe pas du tout au niveau de si je suis membre de l'Église ou pas. On est très heureux s'il y a des personnes qui deviennent membres de l'Église. Mais ce qui est déterminant, ce qui est vital, c'est est-ce que j'ai pris cet engagement personnel envers Jésus dans ma foi, dans la foi. Un autre verset, regardez Jean 1, verset 12. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue, ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc mes amis, nous avons un pouvoir incroyable, celui de devenir enfant de Dieu. Quel cadeau Dieu nous fait en nous donnant cette possibilité de devenir son enfant. Lorsqu'une personne décide de suivre Jésus de son plein gré, elle est spirituellement régénérée, comme le pain que nous prenons, que nous mangeons et qui nous restaure physiquement. Le Seigneur vient nous restaurer spirituellement, comme le pain que nous mangeons. Je voudrais vous lire juste je crois que je l'ai en diapo d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé cette strophe-là qui n'est pas dans la Bible mais qui est de John MacArthur, peut-être certains d'entre vous connaissent. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Je crois profondément à cela. Le but de la naissance de Jésus-Christ était sa mort. Cela me préoccupe beaucoup aujourd'hui d'entendre certains parler toujours du fait que Jésus était une personne merveilleuse, qui dans un ensemble de circonstances s'est retrouvé pris au piège. Cependant, la parole de Dieu nous dit clairement que Jésus-Christ n'a jamais été piégé, il n'a jamais été trompé, il n'a jamais été surpris, il n'a jamais été victime, il est allé à la croix de sa propre volonté parce qu'il est né pour ce but express. Même si au moment où ça s'est vécu, on est tous d'accord pour que Jésus voulait demander à Dieu d'éloigner la coupe amère, parce qu'il savait la douleur que ça allait représenter, il savait toute la souffrance que ça allait représenter pour sa vie, mais il n'empêche qu'il y est allé volontairement. Et là, pour nous, ça donne encore beaucoup plus de sens à la croix et au sacrifice de la croix. Acte 2, 23. Cet homme a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Ça remonte aux temps anciens. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Vous vous rendez compte le nombre de paradoxes qu'on a dans ce verset? Et pour tout ça, on peut être reconnaissant. Dieu livre son propre fils, son propre enfant qui est Dieu. Il vient à Bethléem, dans la maison du pain. Et il va grandir, il aura son ministère, et ensuite il ira jusqu'à la croix. Et il ressuscitera aussi le troisième jour. Alors il est bon, mes amis, de se souvenir au moment où nous célébrons la venue de Jésus dans ce monde. Il est bon de se souvenir qu'il est Dieu fait homme pour nous, et que Dieu accepte de prendre notre condition, que Jésus prend notre condition, qu'il accepte de mourir pour sauver ceux qui voudront bien de lui. Mais c'est inimaginable pour nous qui aimons Jésus de se dire, mais crucifié par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont crucifié. Mais aujourd'hui, grâce à ce sacrifice, nous sommes au bénéfice de ce salut. Et on peut chanter ensemble, et on peut le prier ensemble, et on peut le louer ensemble grâce à ça, à cause de ça. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est mon message de Noël pour vous, pour nous. Je vous souhaite vraiment de vivre des temps de Noël paisibles, bénis, vraiment, où Jésus sera vraiment là à vos côtés, chaque instant, même si c'est difficile et compliqué des fois, hein. On est d'accord. Mais vraiment qu'il vous bénisse, mes frères et sœurs, qu'il vous bénisse.